Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Isabelle Eberhardt est une femme presque de l'ordre de l'inclassable parce qu'elle est tout. Parce qu'elle était femme libre, ne laissant aucun interdit lui mettre de limites. Parce qu'on pourrait dire qu'elle est anthropologue, parce qu'on pourrait dire qu'elle est philosophe, on pourrait dire que c'est une spécialiste de la religion, parce qu'elle va s'intéresser au monde soufi et aux langues, à la spiritualité. Elle s'intéresse aux racines en même temps qu'elle s'intéresse au ciel. Le grain de sable a autant de poésie que l'horizon. Elle est une écrivain, ou une écrivaine, selon comment on voudrait le dire. Son nom crié, cela va être le voyage. Isabelle Eberhardt. C'est déjà un nom de plume.
Bonjour, cette semaine je vous emmène sur les traces d'une femme de lettres et de sable. Direction Genève, la ville qu'il a vue naître à la fin du 19e siècle en Suisse, mais aussi l'Algérie, le désert, ce Sahara tant aimé qui lui tiendra lieu de page, les mots pour seul bagage. Rebelle aux ordres du monde, Isabelle Eberhardt aura été décidément en avance sur son époque. À 20 ans, elle se lance de l'autre côté de la Méditerranée, se fait cavalier arabe, disciple soufi et arpenteur d'horizons, faisant fi des frontières et des identités. À 27 ans, elle meurt brutalement dans le désert, laissant derrière elle plus de 2000 pages et un témoignage précieux du monde arabe et musulman du début du XXe siècle. Sujet d'innombrables biographies, Isabelle fait partie de ces personnages mythiques, fascinants, qu'on n'a pas connus, mais dont on a terriblement envie de se rapprocher. En la lisant, en la suivant et en interrogeant son existence, aussi brève qu'intense. C'est ce que j'ai fait à l'occasion d'une exposition qui lui a été consacrée à Genève, portée par Karel Ménine, grande amoureuse des mots d'Isabelle.
Un droit que bien peu d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage. Et pourtant, le vagabondage, c'est l'affranchissement et la vie le long des routes, c'est la liberté. Rompre un jour bravement toutes les entraves dont la vie moderne et la faiblesse de notre cœur ont chargé notre geste, s'armer du bâton et de la besace symbolique et s'en aller. Pour qui connaît la valeur et aussi la délectable saveur de la solitaire liberté, car on n'est libre que tant qu'on est seul, l'acte de s'en aller est le plus courageux et le plus beau. Égoïste bonheur peut-être, mais c'est le bonheur pour qui sait le goûter. Être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger et chez soi partout, et marcher solitaire et grand à la conquête du monde.
Isabelle revendiquait un droit au vagabondage. Alors je ne sais pas si en ville on vagabonde, peut-être plus on flâne. Nous on a quand même une petite destination là, ouais. En l'occurrence, dans le quartier oui. Des Grottes. Oui. Ce sont les mots d'Isabelle qui ont été adossés un peu partout dans ce quartier, qui est donc situé, puisqu'on est juste au-dessus de la gare Cornavin de Genève.
Exactement, on est dans un des plus vieux quartiers de Genève et on est même dans une des rues les plus anciennes de Genève, qui est la rue de l'Industrie. Le quartier des Grottes est un quartier qui a un passé ouvrier, un passé de gens qui venaient de l'Est, qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Italie. Et c'est un quartier donc où est née Isabelle Eberhardt, mais qui reste d'une identité populaire authentique. Et on peut descendre comme ça, on va aller vers la place des Grottes, où pas à pas, on arrive vers la maison de naissance d'Isabelle Eberhardt. Et de vitrine en vitrine, on a des textes qui se déploie parfois dans son écriture arabe, parfois en russe, pour que les gens qui se promènent ici puissent simplement rencontrer la littérature d'Isabelle Eberhardt. Et par exemple, ici, on a un restaurant libanais sur lequel on a écrit une phrase qui, si je ne m'abuse, voilà, est ici, qui dit « Le désert, pas d'obstacle au regard, loin, pas de peur, liberté retrouvée ». Voilà, moi j'aime bien travailler dans la rue parce qu'on dit tout le temps que la littérature est soi-disant l'œuvre des élites et la rue nous démontre que c'est l'inverse. Alors on a ici Nature en vrac où il y a du texte et puis on arrive doucement à la fresque qui est rentrée dans le patrimoine artistique de Genève qui va donc être non seulement conservée mais préservée, qui a été vernie et qui est assez belle parce qu'elle se trouve en face de l'endroit où se trouvait sa maison natale.
D'ailleurs, c'est écrit, puisqu'il y a cette photographie, cette reproduction, où on la voit toute jeune en habit de marin, Isabelle, ville et mine. Lorraine, Marie Eberhardt, 1877-1904. Et en dessous, il y a écrit journaliste politique, écrivaine, défenseuse des droits des musulmans, musulmanes d'Algérie. Elle est née dans la petite ville à Fent, qui s'élevait derrière vous.
C'est ça.
Exactement. Et sur ce mur, je suis venue écrire...
On va se mettre un peu en arrière pour pouvoir le lire, parce qu'il est quand même grand. Hein. Il fait
grand.
Au moins 10 mètres de long et 4 mètres de haut, ce mur.
Et j'ai mis en grand au milieu « Et elle se fit nomade ». Point. J'ai demandé à un jeune Syrien réfugié ici à Genève de venir écrire en arabe une phrase. C'était assez beau parce qu'il était très ému de peindre ça sur le mur directement. Et je lui ai demandé d'écrire « Et elle était poète ». Donc c'est ce qu'il a écrit. Et il y a une très très belle phrase d'Isabelle Eberhardt que j'ai mis tout en haut, que j'adore. Et cette phrase dit « Je suis seule, assis en face de l'immensité grise de la mer murmurante. Je suis seule comme je l'ai toujours été partout. Je suis seule et je rêve. »
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ce mur. Et quand on tourne le regard... Vers la droite, on a cette grande vue avec tout ce ciel, comme c'est souvent le cas à Genève, qui est comme ça quadrillé par tous les fils électriques du tram. Et puis un peu plus loin, cette vision de la gare, avec ce flot de gens qui quittent, qui partent. Il y a un petit appel quand même de l'ailleurs.
Ah, totalement. Quand on est sur le quai et qu'on prend le train pour partir, on le voit ce mot de nomade, et on peut partir avec, et il fait résonance. Elle aurait pu prendre le train... à l'époque, notre chère Isabelle. Et puis on voit le Salève, le Mont Salève aussi, qui appelle aussi à un ailleurs, qui montre l'horizon, le paysage, voilà. Genève est une ville qui, par sa construction géographique, appelle vraiment au voyage. Elle invite à aller au-delà. Au-delà du lac, au-delà des montagnes, elle appelle vraiment ça.
En Suisse, c'est bien connu, les écrivains voyageurs comme Ella Maillard, Anne-Marie Schwarzenbach ou Nicolas Bouvier, pour ne citer que les plus connus, font partie du patrimoine. Sauf que peu savent qu'avant eux, Isabelle avait ouvert la voie. Dans la ville, on la retrouve donc par fragments, sur les murs et vitrines du quartier des Grottes, mais aussi à la Maison Tavel, musée d'histoire situé dans la vieille ville, où pour la première fois à Genève, des écrits originaux d'Isabelle étaient présentés au public. Initiée par la Française Karel Menin dans le cadre de la saison nomade de la Maison de Rousseau et de la littérature, cette exposition présente extraits de cahiers intimes, dessins, photos, lettres et pages de manuscrits de plus d'un siècle. La plupart, époque coloniale oblige, proviennent des archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence en France.
Nous sommes à la maison de Tavel, au niveau des objets du quotidien. Bonjour. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans un cadre très précieux, quoi. On est entouré de mobilier verni, on a des vieilles tapisseries. Mais par contre, elle n'est pas une fan d'intérieur, mais la maison de Tavel lui va bien, parce que c'est une des plus vieilles maisons genevoises, et que donc, c'est une maison qu'elle a connue. C'est une maison qu'elle a vue, elle marchait dans Genève, donc je pense qu'elle est passée à côté.
Puis c'est une façon aussi de l'inscrire dans l'histoire de la ville.
C'est ça. Ça lui permet de rentrer dans le patrimoine historique véritablement. Et donc, je vais vous conduire dans cette toute petite salle. Alors, bienvenue dans la pièce maîtresse de Madame Isabelle Eberhardt. Ça me semble assez important de préciser qu'on est dans une pièce qui ressemble à une chambre d'appartement. Qui convient bien à cette première étape de présentation des manuscrits et des documents privés d'Isabelle Eberhardt. Vous avez une première série de vitrines qui est ici, qu'on pourrait appeler les années genevoises, et vous avez en face de vous la maison de naissance d'Isabelle Eberhardt.
C'est cette photographie en noir et blanc.
C'est ça, c'est typiquement une petite maison genevoise qui a été détruite pour construire un bâtiment dans les années 80 qu'elle n'aurait sans doute pas réfuté, qui est l'université ouvrière genevoise. Et nous avons en dessous son livret de naissance, en tout cas le livret des naissances de son année, avec au numéro 188, on
ah
peut
oui,
lire.
C'est le grand voilà. Acte de naissance, en fait, c'est un grand livre d'actes. Et c'est on ça. Voit son nom, parce qu'il
à
y en
gauche.
A d'autres.
Et vous avez donc écrit la plume, hein, Isabelle Wilhelmine Marie Eberhardt, numéro 188, qui est née le samedi 17 février 1877, pour le dire à la française, sinon on dirait 77, pour le dire à la Suisse. À 6h avant midi. Donc elle est nommée, c'est important, fille illégitime, puisque son papa n'est pas connu. On dit souvent que le papa d'Isabelle Eberhardt est son précepteur. Trofinovski, qui a accompagné Madame Eberhardt dans son voyage depuis la Russie. On n'en a nullement la preuve. Je pense qu'Isabelle Eberhardt, elle est vraiment la fille d'une mère russe, visiblement très libre d'esprit, avec des positions politiques très affirmées, hein, anarchiste, décide de quitter la Russie, de fuir et de venir sur la Suisse. Et donc, dans la ville de Genève, il y avait déjà une forte communauté qui était liée à l'anarchisme et presque par logique, tous ces gens se retrouvaient et se rencontraient. D'ailleurs, Isabelle Eberhardt la famille Eberhardt va être surveillée par la police genevoise par ce fait même de leurs convictions politiques et du fait qu'ils sont anarchistes.
Sa mère était une aristocrate importante à la cour du tsar de Russie, puisque c'était l'épouse du général chargé de la sécurité. C'était le titre et une fonction des plus importantes.
Jean-René Hulleux, ancien journaliste français, et Marie-Odile Delacour, grand reporter et aujourd'hui psychanalyste, ont passé des décennies à voyager sur les traces d'Isabelle.
Son enfance à Genève, elle était très perturbée parce que c'était une famille déchirée. Et la mère d'Isabelle était partie avec ses 5 premiers enfants. Ils n'étaient pas dans la pauvreté, ils habitaient une très belle villa dans la banlieue de Genève, mais ils n'acceptaient pas ce déclassement. Et alors ils étaient un peu partis dans une forme de débauche. Alcoolisme, drogue, etc. Et Isabelle, qui était la dernière et qui n'était pas la fille du général demeureur de la cour de Saint-Pétersbourg, s'est retrouvée dans une position de souffrance parce qu'elle n'avait pas du tout les mêmes raisons et par rapport à ça...
Elle est née déjà à Genève.
Elle est née à Genève 2 ans après l'arrivée de sa mère et à une époque où le mari de sa mère n'était plus présent. Ouais. Mais celui qui lui a servi de père était au départ un séminariste qui, après, a adhéré aux idées de Bakounine. Et c'était un homme d'une très grande culture qui lui a communiqué cette culture, en particulier la connaissance des langues. Elle parlait 5 ou 6 langues presque couramment. Elle a appris l'arabe à une vitesse record. Et le précepteur en question,
Vava.
Oui, qu'elle appelle Vava ou le vieux, avec beaucoup de tendresse d'ailleurs, était lui présent. Elle a longtemps pensé qu'il pouvait être son père, et puis à la fin, il y a différentes versions qui arrivent. On a l'impression que par rapport à ça, elle embrouille les choses délibérément, comme si elle veut rester dans cette énigme.
Donc il y a une quête identitaire.
Ah oui, il y a une quête identitaire et je pense que l'absence de père a dû beaucoup jouer hein, dans le mouvement qu'elle a opéré. Il y a une quête identitaire aussi par rapport à sa féminité. Elle est visiblement élevée comme un garçon, très proche de son frère Augustin qui est né 2 ou 3 ans avant elle. Ça forme une alliance très forte puisqu'ils veulent écrire ensemble hein, quand ils sont adolescents tous les deux. Elle s'habille en garçon, il y a des témoignages de visiteurs de la ville La Neuve qu'ils habitaient à Genève où on la voit déjà en garçon à l'adolescence, en train de couper du bois par exemple, il y a un témoignage de ce type-là. Et en plus, il faut savoir que quand on est une jeune fille à la fin du 19e siècle, on ne peut pas sortir sans chaperon. Donc c'est pas mal d'endosser un petit costume de marin pour aller en ville, voir son copain le pharmacien qui procurait des drogues à son frère, et puis boire parce qu'elle picolait un peu, et puis aller voir les jeunes du comité révolutionnaire russe qu'elle a fréquenté à un moment. Donc, elle s'accordait cette liberté. On sent quelqu'un qui est très, Jean-René l'a dit, très déchiré, avec une instabilité, une structure, dirait la psychanalyste, une structure de base pas très bien fondée en elle-même. Donc oui, elle se cherche. Apparemment, c'est quelqu'un d'une grande bonté, mais aussi capable de grands excès. Et quand elle trouve ce très beau paysage d'Elwed au sommet d'une dune, elle se trouve, elle découvre l'unité. Elle en parle à propos des palmiers. Elle est impressionnée par la droiture et le côté du alif que représente le palmier. Je pense que ça joue énormément de son engagement dans l'islam et sur le territoire algérien joue beaucoup à partir de cette rencontre du désert où elle se trouve une terre d'apaisement en fait, je pense.
Il est des heures à part. Des instants très mystérieusement privilégiés où certaines contrées nous révèlent, en une intuition subite, leur âme en quelque sorte leur essence propre, ou nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne sauraient plus ni compléter, ni même modifier. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment? Je ne sais. Ainsi, ma première arrivée à Elwed il y a 2 ans fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le souffle, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Du sommet de cette dune, on découvre toute la vallée d'Elwed, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Étagée sur le versant méridional d'une dune, Elwed, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes, changeait lentement de teinte. Ici, le Sahara, âpre et silencieux avec sa mélancolie éternelle, ses épouvantes et ses enchantements, a conservé jalousement la race rêveuse et fanatique venue jadis des déserts lointains de sa patrie asiatique. Et ils sont très grands et très beaux ainsi, les nomades aux vêtements et aux attitudes bibliques, qui s'en vont prier le Dieu unique et dont aucun doute n'effleurera jamais les âmes saines et frustes. Et ils sont bien à leur place là, dans la grandeur vide de leur horizon illimité, où règne et vit splendide la souveraine lumière.
En fait, à partir de l'âge de 16 ans, elle se trouve confrontée à un choix. C'est évidemment dans l'existence un moment où on a besoin de se déterminer. D'un côté, elle fréquente des jeunes immigrés russes ou des réfugiés politiques qui se regroupent en comité révolutionnaire, dont elle est pendant un temps la secrétaire d'un de ces comités. Et d'un autre côté, elle rencontre des jeunes turcs qui préparent leur révolution, et parmi eux, en particulier, l'un d'entre eux, vers qui elle a un élan amoureux, et qui est un poète, bizarrement non-croyant, mais qui lui parle très très bien de l'islam. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait un choix, elle abandonne l'illusion de la révolution, je crois que c'est un terme qu'elle utilise plus ou moins, et elle choisit d'aller vers le Maghreb, qu'elle appelle le Dar el-Islam. Ça veut dire que non seulement elle regardait vers le sud, mais elle regardait aussi vers l'islam.
Justement, ce désir d'Orient, dès le 19e siècle, il a existé chez beaucoup d'Occidentaux. Ça a même façonné, suscité un courant littéraire, artistique, qu'on a appelé l'orientalisme, qui était un grand fantasme des pays du Levant ou des pays du Couchant, soit le Maghreb ou le Moyen-Orient. Dans son cas, dans celui de Isabelle Eberhardt, c'est pas le même désir. On n'est pas dans les femmes lascives, des harems ou dans les bains turcs. On est dans la réalité et dans la fraternité.
Ben oui, parce que la différence, c'est qu'Isabelle Eberhardt est une femme. Et elle était beaucoup plus près de la réalité. Et parmi les orientalistes de son époque, un des plus authentiques, c'était Pierre Loti, et parce qu'il avait une expérience sur le terrain, si je puis dire, en tant qu'officier de marine, il avait parcouru et visité tous les pays de l'Empire français de l'époque. Et c'est sur lui qu'elle prenait exemple pour envisager une carrière littéraire à partir de ce sujet. Parce qu'il y avait aussi cette ambition de pouvoir vivre et se faire connaître à travers son écriture.
Elle a été élevée par un anarchiste. Et donc elle n'avait pas les préjugés bourgeois de ces écrivains que j'ai beaucoup appréciés, comme Flaubert ou comme Maupassant. Et elle avait donc une liberté de pensée, une largeur de vue qui l'amenait à considérer l'autre dans toute sa réalité. Donc elle avait cette profonde humanité qui la mettait complètement au-delà des préjugés de son temps. C'est-à-dire, dans le mouvement orientaliste, il y avait quand même un sentiment de supériorité. qu'elle n'avait pas du tout. Elle était vraiment attirée par l'autre dans toute sa spécificité, sa différence. Elle a laissé une œuvre anthropologique, en fait. Elle s'est intéressée au mode de vie, mais de l'intérieur, jamais comme un regard extérieur et touristique, en fait. C'est ça qui fait la différence avec les orientalistes, à mon avis.
Elle n'a pas seulement voyagé, elle a aussi habité ces contrées où elle est allée.
C'est ça. Elle a vécu là-bas longtemps, tout est relatif. Elle n'a vécu que 7 ans, mais de longs séjours, avec la ferme intention de s'y installer, en fait, et tourner le dos à la civilisation occidentale. Donc elle est plus radicale, en fait.
Je ne pense pas qu'Isabelle Eberhardt voyageait. Je pense qu'elle rencontrait, et c'était une immersion. C'était un acte d'amour, au sens le plus pur du terme. C'est-à-dire aller au cœur de l'autre, aller chercher l'essence de l'autre. Rentrer dans cette âme-là avec le plus grand respect et à petits pas. Lorsqu'elle part en Algérie, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement de la pensée. C'est une intellectuelle. Donc elle se rend compte que les femmes en Algérie, elles sont vouées à des tâches de cuisine et de famille. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc elle va aller discuter avec les hommes. Et pour discuter avec les hommes, il faut qu'elle soit habillée en homme. C'est beaucoup plus simple.
C'est juste utile. Exactement. Utile pour pouvoir se déplacer, typiquement exactement. À Genève. Mm-hmm.
Vous avez des documents qui sont très intéressants. Donc ceux-ci appartiennent à l'État genevois. Et ce sont des documents de police. Parce qu'Isabelle Eberhardt, c'est...
Rapport de renseignement du 12 janvier 1899.
Exact. Et donc là, elle est arrêtée. C'est-à-dire qu'il l'arrête simplement et il précise véritablement que cette femme a un comportement masculin. Et c'est marqué « circule en ville vêtue en homme ». Il y a toute une description qu'on peut avoir. Et Isabelle Eberhardt, elle va jouer de ses identités masculin-féminin, mais pas du tout pour des questions de genre qui seraient liées à des désirs de passer d'une sexualité à une autre, pas du tout. Elle prend le costume, le vêtement, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une porte d'entrée vers une communauté.
Et là, on a cette image fameuse où elle porte un habit, on peut dire, local, de bédouin. C'est pas exactement le fameux burnous, mm-hmm. mais il y a aussi des images d'elle mm-hmm. avec ce grand burnous blanc, où là, c'était utile pour se déplacer dans le désert.
Exactement. Il faut qu'elle puisse non pas être perçue comme une jeune femme publiciste, c'est-à-dire journaliste politique venue de Suisse, mais d'égal à égal.
Ou une étrangère.
Ou pire, une étrangère. Donc on sait par exemple qu'elle rentre des fois dans les maisons habillée en femme, elle en ressort habillée en homme, enfin, ça lui posait aucun problème. Mais ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est qu'ils vont l'adopter comme un frère, alors qu'ils savent que c'est une femme. Il y a zéro mensonge, elle n'est pas en train de tricher, elle ne se fait pas passer pour une autre. Elle prend simplement l'identité dont elle a besoin. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Isabelle Eberhardt, c'est de l'imaginer. Elle le raconte, elle part le matin, chevaucher le désert à cheval. On sent la liberté, la soif d'aller très très loin. Elle raconte ses discussions qu'elle a la nuit avec les berbères, avec le monde soufi. Voilà, c'était une union d'âme qu'elle quittait. Et ça, c'est précieux parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on a totalement oublié dans notre relation au monde musulman, qui n'est pas une relation de violence, d'irrespect, de méfiance, mais qui est au contraire une union basée uniquement sur la fraternité et la curiosité universelle, la curiosité réciproque.
En 1897, Isabelle Eberhardt tourne donc le dos à l'Occident chrétien et industrieux. Pour son premier voyage à Beaune, soit Annaba en Algérie, elle part avec sa mère, Nathalie de Mordeur, qui quelques mois après décède sur place. Elle sera enterrée dans un cimetière musulman sous le nom de Fatma Manoubia. Là-bas, Isabelle fuit les Européens, vit dans les quartiers dits indigènes et s'engage dans un chemin de connivence, de curiosité pour les Algériens, un chemin spirituel aussi. En 1899, Alexandre Trofimovski, son précepteur Vava, meurt et après un crochet par la Tunisie, Isabelle décide de s'enfoncer dans le sud algérien, vers El Oued. Sans attache, ni parents, la voie est libre et pour Isabelle, elle sera soufie. Jean-René Hulleux et Marie-Odile Delacour ont particulièrement travaillé sur la place de ce courant mystique de l'islam dans la vie d'Isabelle.
À notre avis, Isabelle Eberhardt a été l'une des premières occidentales à rentrer dans une voie soufie en tant que telle. Rien que ça, c'est déjà une curiosité, puisqu'elle était habillée en homme et elle était reçue par les chiirs qui ont été ses maîtres, comme un homme et comme une femme. C'est-à-dire qu'elle allait à la mosquée avec les hommes et les chiens savaient que c'était une femme. Donc quand on regarde les choses depuis l'islam d'aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant.
Comme par hasard, son premier voyage en Algérie qu'elle fait avec sa mère, elle s'installe dans la vieille ville d'Annaba et elle trouve une maison qui est à côté d'une zaouïa. Et qu'est-ce que c'est qu'une zaouïa ? Ben, c'est un établissement qui dépend d'une confrérie et où on dispense un enseignement aux disciples. Et très vite, elle frappe à la porte de cette zaouïa et demande qu'on lui donne des cours d'arabe. Et assez vite, et en tout cas elle le raconte, comment elle va devenir un taleb, c'est-à-dire un des étudiants de cette zaouïa. Et ça, c'est tout à fait au début. D'ailleurs, elle disait, je ne me suis pas converti à l'islam. Pour moi, je n'avais pas de religion, je n'avais pas à me convertir. Je suis rentré dans l'islam. Après, son parcours aventureux dans le Sahara sera essentiellement une recherche de maîtres spirituels et de lieux où elle peut aller se recueillir et essayer de retrouver l'intégrité de son personnage. Et c'est effectivement ce qui se produit. Après un premier voyage, puis un séjour de 6 mois à El Oued, où elle envisage de s'installer, elle est transformée.
Elle cherche le vieil islam. C'est son expression dans ses textes. Et le vieil islam, quand on le décrypte aujourd'hui, c'est le soufisme. C'est-à-dire, c'est l'islam du cœur intouché par cette sale civilisation occidentale. Hein, ce sont ces mots. Donc, quand elle approche le soufisme, quand on rentre dans le soufisme, c'est aussi un chemin de connaissance de soi.
Mais ce qui est étonnant, c'est l'extrême tolérance qu'elle rencontre.
Ce qui est propre au soufisme, c'est que quand quelqu'un qui prétend devenir un disciple approche du maître spirituel, le maître spirituel le regarde et dit immédiatement s'il l'accepte ou non. Et quand Isabelle Ebrard approchait des maîtres spirituels, il l'acceptait. À El Oued, la première fois où elle rentre vraiment dans une confrérie, la confrérie des Kadriaks, très importante, elle devient carrément le secrétaire de confiance du Chir.
Il y a une grande tolérance, mais il y a un grand respect pour la femme cultivée qu'elle est, en fait. Je pense que le Chir d'une confrérie, il lui importe peu d'où vous venez, en fait. Et je pense qu'elle avait une soif spirituelle suffisamment ardente et sincère et désintéressée. Je pense qu'elle était vraiment désintéressée pour ne même pas avoir à persuader le Chir qu'elle était sincère. Ça se voit, en fait, ça se sent.
Parce que c'est ça aussi, c'est une ouverture, c'est une sensibilité à l'autre. Et c'est vrai qu'Isabelle, quand elle arrive dans le désert, qui est à la fois un territoire qu'elle a fantasmé, qui la fascine, elle s'y plonge, elle entre dans le désert presque comme on entre en religion, quasiment.
Absolument. Je pense que c'est ça, vous parlez d'ouverture du cœur, c'est exactement ça. C'est ça que voient les Chir chez vous. Votre capacité à ouvrir votre cœur et ne pas être dans le mental et dans la pensée, en fait. Et je pense qu'elle était vraiment à ce niveau-là. Elle aimait l'humain, quelle que soit son origine. Je vous disais tout à l'heure, un légionnaire, pour elle, est aussi intéressant qu'une prostituée. Ou que même un colon qui a un tout petit bout de terre et qui sue sur sa terre parce qu'il a du mal à vivre. Un de nos amis soufis nous a dit en Algérie, elle sait voir le divin en chacun. Et je pense que c'est ça que les Chir pouvaient voir chez elle.
La solitude chez elle, ça revient sans cesse. Le besoin et la douleur de la solitude. Et c'est pour moi une caractéristique d'un poète. La nécessité blessante de la solitude. Ça participe de sa grande mélancolie et ça participe aussi de sa soif de désert et de silence, en même temps que ça participe de son écriture, qui est le compagnon. Et sur son écriture, les mots manquent. La critique littéraire ne s'est pas suffisamment penchée sur la place de son œuvre dans l'histoire littéraire de la fin du 19e et du début du 20e, et elle manque à cet endroit.
Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ce manque ?
Parce que justement, on s'est arrêté à la femme, au mythe. On aura dit d'Isabelle Ebrard, c'était une femme qui s'habillait en homme pour aller dans le désert, que c'était une marginale, une originale, une femme de sable, que Rimbaud était son père parce qu'il était passé à Genève en même temps. Et on n'est pas allé au-delà, on n'est pas allé chercher l'œuvre, on ne la lit pas. Le nombre de gens qui me parlent d'Isabelle Eberhardt et qui ne l'ont pas lue. Et à chaque fois, j'attends. J'attends qu'un jour, il y en ait un ou une qui dise « Vous savez quoi, en fait ? Moi, je dois tout à Isabelle Eberhardt. » Pour l'instant, il y en a une qui l'a fait, c'est Patti Smith.
Alors, Patti Smith, musicienne d'abord, écrivaine aussi, poétesse américaine.
Qui adore Isabelle Eberhardt, qu'elle lit depuis très longtemps, et qu'elle lit en anglais, puisque Isabelle Eberhardt a été traduite par Paul Bowles, qui était parti et qui vivait au Maroc.
À Tanger.
À Tanger, exactement, qui avait traduit cette œuvre, une partie de cette œuvre. Et parler de Isabelle Eberhardt avec Patti Smith, c'est fascinant, parce qu'elle l'a lue, elle l'a comprise, elle la met au bon endroit. Et que, un jour, je pense qu'un journaliste ou un auteur ou une autrice saura dire « oui, moi je lui dois ». Comme on dit « je dois à Duras quelque chose » ou « je dois à Montaigne quelque chose ». Donc je l'attends, ce moment-là. J'espère qu'il me surprendra un matin à la radio.
En attendant, on peut peut-être écouter Patti Smith, alors.
Ah oui, alors ça c'est sûr. Ça, il faut toujours écouter Patti Smith.
So I dreamed a dream of Saint Francis who kneeled and prayed for the birds and the beasts and all humankind. I retreated from the silence of my room, stepping down the ancient stones washed with dawn, and entered the basilica that bore his name.
Signor,
seeing his effigy, I bowed my head, and my racing heart I gave to him. I kneeled and prayed.
Dove c'è disperazione.
Si loin, si proche. Voyage, monsieur. RF.
Bonjour, monsieur.
Vous faites un reportage?
Oui.
Bien sûr.
Isabelle Eberhardt, est-ce que ça vous parle?
Bien sûr.
Mais
là, j'ai pas. On vend beaucoup plus Nicolas Bouvier. Par contre, Isabelle Eberhardt, elle est... Ouais, les livres ne sont pas très demandés.
Elle est moins connue.
Moins connue, je pense.
Où est-ce qu'on se trouve ici, là?
C'est la Fusterie. Et il y a le marché des bouquinistes les mardis et les vendredis.
Et alors vous la connaissez comment, Isabelle Eberhardt?
Moi, je suis algérien. Et donc, c'est l'une de mes premières lectures. C'était il y a 20 ans de cela.
Et vous l'avez lu à quel âge, alors?
Je pense que je l'ai découvert quand j'ai commencé à faire le sud algérien. Moi, j'étais étudiant à Alger. Et dès qu'on avait 15 jours de vacances et tout, je descendais vers le sud. Et là, je l'ai lu parce que j'étais vraiment dans les endroits où elle a été. El Ouad, Silla, enfin toutes les villes là qui, avant d'arriver dans le Grand Sud. Ouais. Elle a un talent d'écrivaine et surtout le courage parce qu'elle était mal vue par l'administration coloniale. Donc elle a même été interdite d'aller à certains endroits.
Expulsée,
voilà. Puis elle n'a pas eu une vie facile, je pense ici. Il y a eu des problèmes familiaux. Et, voilà, tout ça fait que c'est un personnage haut en couleur.
Et c'est un personnage de Genève.
Exact.
Mais ouais. Aussi de l'Algérie.
Et de l'Algérie aussi, oui.
Entre Genève et l'Algérie, le souvenir de l'écrivaine voyageuse Isabelle Eberhardt demeure, pour celui qui le cherche un peu, c'est vrai. Pas de livre d'Isabelle, donc, dans les étals de Karim, le bouquiniste, pas de biographie non plus. Et pourtant, elles sont nombreuses à son sujet. Mais le plus souvent, les biographes se sont cantonnés à la figure de l'aventurière, de la scandaleuse, qui signait indifféremment sous des noms de plumes masculins ou féminins, et qui, dans le désert, avait endossé l'identité de Mahmoud Saadi. La bonne nomade, c'était son surnom, à l'époque coloniale, une époque tourmentée.
À la fin de son long séjour à El Oued, elle part en pèlerinage avec les gens de sa confrérie Et au cours d'une halte, elle est agressée à coups de sabre. Elle est blessée. Et donc, elle va être transportée à l'hôpital.
C'est le fameux attentat supposé en 1901.
C'est ça.
Le 29 janvier, je crois.
Voilà. Alors, on a dit que c'était un fanatique. On a dit aussi qu'il était manipulé par la police, enfin, etc. On n'a jamais su vraiment la vérité. Et même depuis que les archives militaires se sont ouvertes, ça n'a pas éclairé davantage. En tout cas, à cette occasion, la population d'El-Oued s'est aperçue que Mahmoud Saadi, en fait, n'était pas Mahmoud Saadi, mais c'était une femme. Et là, il y a une forme d'interprétation. Disons, parmi ceux qui ont la foi du charbonnier, eh bien, ils ont lu ça de telle manière. C'était un homme, elle est venue voir le chir et il l'a transformée en femme. Et alors, le plus drôle, c'est qu'il y a eu une chanson là-dessus à l'époque. Et quand nous sommes passés à El-Oued, bien des années après, je crois que c'était en 86 du siècle dernier, des amis nous ont dit « Oh, mais on va vous présenter une dame qui chante une petite chanson, vous allez voir, ça va vous intéresser. » Effectivement, les paroles de la chanson, c'était ça, quoi. C'était vraiment un homme est venu, il a vu le chien, et il s'est transformé en femme. Et voilà, c'est resté depuis tout ce temps-là.
Mais il y a plus que ça, parce que l'incident dont parle Jean-René a provoqué autre chose. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, elle a rencontré un Majdoub, hein, c'est-à-dire un illuminé. Elle l'observait, elle parlait avec lui, et il lui disait « Va Mahmoud de Zaouïa en Zaouïa ». Et je pense que c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'elle s'engage encore plus dans la voie spirituelle, qu'elle décide de rentrer vraiment comme disciple et qu'elle essaye de trouver, alors je parlais d'unité, mais de chercher, de trouver son unité intérieure. Donc c'est en relisant son œuvre avec ce prisme-là qu'on a finalement trouvé une mine d'or, mais ça ne saute pas aux yeux au premier regard, à la première lecture. C'est même assez surprenant, mais non, enfin, c'est pas surprenant parce que les soufis du 19e et du 20e siècle n'étaient pas censés dire qu'ils l'étaient.
Parce que c'est aussi un rapport d'initié, il y a toute une initiation aussi,
c'est ça.
Secrète.
Exactement, tout à fait.
Suite à cet attentat dont elle sera victime, en tout cas cette attaque, il va y avoir un procès à Constantine. Et ça aussi, ça va la marquer dans sa voie soufie. Puisque derrière ça, il y a la question de juger un homme, de juger sa faute, et de savoir si l'on pardonne ou pas. Ce qui est quelque chose de très important pour elle.
Elle a quand même le culot, devant un tribunal militaire, de demander la grâce de son agresseur. Il faut quand même le faire. Hein.
Alors qu'il l'a attaqué à coups de sabre.
Oui. Et elle aurait vraiment pu en mourir et elle a échappé à la mort parce qu'une corde était tendue juste au-dessus de sa tête et que le sabre de son agresseur a dévié. Mais le procès de Constantine a quand même le gros désavantage pour elle de marquer son bannissement. C'est-à-dire qu'on lui demande de quitter l'Algérie. Elle n'est pas algérienne, son passeport est russe. Et donc pour elle, ça c'est vraiment un très très grand déchirement d'être contrainte de revenir vers le nord, vers cette sale civilisation occidentale. Et c'est grâce à son mariage avec Slimane Henni, qui est lui fils d'un commissaire de police de Sétif, si je me souviens bien, et qui est de nationalité française parce que c'était un fonctionnaire de l'État français en fait. Grâce à son mariage avec Slimane, qui est d'origine algérienne mais français, elle peut revenir en Algérie avec des papiers français.
Ce serait drôle de l'interviewer aujourd'hui, de dire « Bon alors, racontez-nous vos voyages seuls sur un bateau à Marseille, moi ça m'intéresse. » Quand vous étiez sur les docks, tout ça, quand vous vous rasiez les cheveux dans les soins de coiffure pour être en coupe militaire, pour que vous soyez la plus discrète possible.
Elle a même été dockère aussi.
Alors on n'en a pas la preuve, mais elle le dit, oui, elle aurait travaillé sur les docks à Marseille pour se faire quelques sous. Elle a peut-être même fait d'autres choses qu'on ignore. Elle commençait à vivre de sa plume, mais ce n'était pas suffisant. Elle était tout le temps en quête d'argent juste pour survivre. Hein. Mais je pense que ce n'était pas les petits boulots ou les métiers parallèles qui pouvaient l'effrayer. Je ne suis pas sûre qu'il y avait grand-chose qui l'effrayait, d'ailleurs.
Elle n'était pas dans une revendication de femme. Elle était juste dans une naissance, une existence.
Oui, il n'y a pas, je pense, chez Isabelle Eberhardt, de combat féministe tel qu'on pourrait l'imaginer.
Contrairement, par exemple, à Alexandra Davinet, elle.
Ah oui, totalement.
Je pense... Qui est contemporaine, qui est une grande écrivaine voyageuse.
Qui a ouvert le chemin des femmes vers Lhasa et vers le Tibet. Qui a une correspondance avec Isabelle Eberhard sur l'usage du costume, de se fondre avec la culture que l'on veut épouser et interroger et observer, de prendre le temps. La notion du temps, quand on voit le temps que Isabelle Eberhard prend, quand on voit le temps qu'Alexandra Davinel prend, c'est pas des voyages de 4 mois, on parle de plusieurs années, de la construction sur plusieurs années.
14 ans pour Alexandra Davinel, par exemple. Elle devait partir quelques mois, c'est ce qu'elle avait dit à son mari, Philippe Nel.
Oui, d'ailleurs, c'est aussi, elles ont pour point commun d'être toutes les deux soutenues par leur amour, qui comprennent tous les deux qu'ils ont affaire à des femmes qui vont compter et qui, plutôt que de leur mettre des obstacles, vont les encourager, les soutenir financièrement pour l'un, la soutenir moralement et socialement pour l'autre.
Isabelle Eberhard a noirci des pages et des pages. Elle a écrit sans cesse toute sa vie. Elle a aussi été reporter un temps, en tout cas à l'époque où elle a rencontré Victor Barucan et où elle a commencé à travailler pour le journal algérois francophone El Akbar. À ce moment-là, elle part effectivement voir de plus près des conflits, donc elle est reporter de guerre, à l'époque où les tribus rebelles luttent encore contre le colonisateur français. Jean-René Huleux, comment a-t-elle endossé tout d'un coup ses habits de reporter de guerre, de la même manière qu'elle l'a fait pour le reste ?
J'ai l'impression que ça lui posait absolument aucun problème.
Quelle était sa position, justement, dans ce contexte colonial tendu ?
Elle était absolument contre les abus de la colonisation. Elle les dénonce. Mais son rôle de journaliste pour un quotidien, la Dépêche algérienne, ça ne la gênait pas, à condition qu'il n'y ait pas de censure sur ce qu'elle écrit. Elle était totalement dans la vie. Hein. Et à l'époque, par exemple, quand elle part en 1903 dans le sud oranais, être dans la vie, c'est aller dans une région où il y a encore des tribus rebelles, où les convois militaires peuvent tomber dans des embuscades, faire des rencontres intéressantes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré celui qui allait devenir le maréchal Ligoté, et que s'est nouée une amitié intellectuelle, mais pas seulement intellectuelle, de cœur aussi, je crois, entre ces deux personnages aussi différents et en même temps semblables, parce qu'ils avaient un même amour de la culture et de l'art, et qu'ils pouvaient se rencontrer. Je pense que Lyoté, qui aimait profondément le Sahara, a rencontré aussi cette passion chez Isabelle Eberhard, et qu'ils ont pu la partager.
Sachant qu'on était à l'époque dans cette percée coloniale française, pas loin de la conquête du Sahara, et Lyoté étant à l'époque un officier de garnison, justement à Incefra, où elle est allée, et va devenir évidemment le premier résident général du protectorat au Maroc. Et il aura ces mots, parce qu'il va écrire à sa mort cette lettre.
Nous nous étions bien compris, cette pauvre Marmoud et moi, et je garderai toujours le souvenir exquis de nos causeries le soir. Elle était ce qui m'attire le plus au monde, une réfractaire. Trouver quelqu'un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, qui passe à travers la vie aussi libre de tout qu'un oiseau dans l'espace, quel régal! Je l'aimais pour tout ce qu'elle était et pour tout ce qu'elle n'était pas. J'aimais ce prodigieux tempérament d'artiste et aussi tout ce qui, en elle, faisait tressauter les notaires, les caporaux et les mandarins de tout poil. Pauvre Mahmoud.
En 1904, Mahmoud Saadi, Isabelle Eberhard, meurt tragiquement à 27 ans dans la crue d'un oued qui balaye sa maison, noyée en plein désert. Étrange destin qui vient un peu plus épaissir le mystère Eberhard et susciter toutes les interprétations jamais élucidées à ce jour sur sa mort. Il n'empêche, son œuvre, elle, sera sauvée des eaux et des décombres. Retour à Genève dans l'exposition Isabelle Eberhard de l'une à l'autre avec Karel Minin.
Ces documents-ci viennent directement du fond qui a été découvert à Incefra et vous voyez des traces d'eau sur ces documents. Donc ils ont été, le général Lyoté, quand il a appris la mort d'Isabelle Eberhard, a demandé à ses troupes, à des soldats, d'aller fouiller les décombres et d'en extraire tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ces documents sont extrêmement fragiles et les autres ne sont pas sortis parce qu'encore plus fragiles, parce que encore plus touchés par l'eau. Ce qui s'est passé en tout cas, c'est que le général Lyautey demande à ses troupes de sauver ses documents, et lui étant un homme militaire, il se dit que ce n'est pas à lui de mettre en travail ses documents, et il va s'adresser à Victor Barucan, qui pour lui est un homme de lettres, parce que Victor Barucan est rédacteur en chef d'un journal francophone qui s'appelle El Akbar. Et Victor Barucan avait fait travailler Isabelle Ebrard comme une jeune journaliste. Et le problème, c'est que Victor Barucan va se permettre des libertés avec les textes d'Isabelle Ebrard qui vont aller très loin, sous couvert de l'excuse qu'il y a des mots qui ont disparu par l'eau, il va falloir les réécrire. Il va raturer, il va rajouter, il va coller des pages sur des morceaux d'Isabelle Ebrard. Je ne sais s'il le fait pour cacher des choses qu'il n'aurait pas fallu dire ou parce qu'il considérait que c'était mauvais au niveau de la littérature.
Par rapport au contexte colonial, vous voulez dire ?
Oui, bah oui, j'oublie pas dans quel contexte elle était en train d'écrire. Il va très clairement appauvrir son écriture, il la rend beaucoup plus mièvre qu'elle n'est. Dans ses choix littéraires, il y a des choses que je ne comprends pas du tout. Il va aller plus loin que ça parce qu'il va s'approprier son œuvre, il va la co-signer à un moment donné, il va même...
Il va adosser son nom,
oui,
dans l'ombre chaude de l'islam, justement.
Il va même aller plus loin puisqu'on retrouve une notice dans le dictionnaire Larousse où Victor Barucan se présente comme seul auteur de « Dans l'ombre chaude de l'islam ». Donc ça reste une blessure dans l'œuvre d'Isabelle Eberhardt. Moi, je voulais simplement, dans cette exposition, redonner la place aux manuscrits, aux documents qui l'ont constitué, qui l'ont accompagné, et à partir de là, qu'on puisse refaire un chemin littéraire avec elle, reprendre le fil dans son écriture. Lisez Isabelle Eberhardt, simplement la lire. C'est tout ce qui lui manque. Elle n'a pas passé sa vie à écrire pour qu'on s'arrête à parler de son visage masculin, de ses costumes, de son attitude libertaire. Ça va bien au-delà. Donc il faut revenir à la source. Et la source, ce sont ses écrits.
Alors on dit tout ça à l'ombre, on peut dire, puisque c'est une très grande photographie qui est devant nous, derrière ces manuscrits, où on peut la voir, jeune évidemment, dans cet habit...
C'est un habit berbère. Elle a des bijoux. Elle pose clairement, elle est en studio, hein, on a un décor de studio derrière, quelques feuilles de palmier, je ne sais pas. Moi, ce que j'aime énormément dans cette photo, c'est son regard. Elle a un regard intense, superbe, qui regarde très loin, mais il y a quelque chose de très, très humble et très noble à la fois.
Et c'est vrai qu'il y a ce magnétisme dans l'image, et puis évidemment dans ses écrits, dans la figure, et chacun veut une part de cette femme un peu.
Ah mais c'est terrible, il y a des fanatiques d'Isabelle Eberhardt, elle touche les gens à des endroits qui sont qui dépassent même le fait que c'est une auteure suissesse qui a travaillé sur l'Algérie. Je remercie sans doute la vie d'avoir permis à Isabelle Eberhardt de mourir dans ce désert-là qu'elle aimait tant. C'était au moins quelque chose qui lui a été accordé, c'est d'aller au bout de son rêve. Elle voulait appartenir à cette terre, elle lui appartient profondément. Je regrette qu'elle soit partie trop tôt, parce que ça nous prive de pas mal de choses qu'elle aurait continué à écrire, et aussi ça a fait qu'on a pu la manipuler, la détourner, l'utiliser. Il n'empêche que un de ses rêves a été réalisé, elle est allée à la quête d'elle-même, et elle a fermé les yeux sur une lumière qu'elle avait profondément épousée.
Depuis plus d'un siècle, Isabelle Eberhardt repose dans le cimetière musulman d'Aïn Zefra, en Algérie. Et sur sa tombe, il est écrit « Isabelle Eberhardt, écrivain, Mahmoud Saadi, baroudeur mystique du Sahara ». Publié surtout après sa mort, son œuvre est petit à petit réhabilitée dans sa version originale, notamment en France, sous l'impulsion de Jean-René Hulu et Marie-Odile Delacour. Ses écrits s'appellent « Trimardeur, dans l'ombre chaude de l'islam, au pays des sables, journalier, note de route Maroc, Algérie, Tunisie ». Merci à Jean-René Hulleux et Marie-Odile Delacour, à Karel Ménine, aux femmes migrantes de l'Université ouvrière de Genève, à Karim, le bouquiniste, et à tous ceux qui m'ont emmené sur les traces de la grande Isabelle. Laure Alary, Céline Develay-Mazurel, on vous souhaite de beaux voyages à l'écoute de RFI. À la semaine prochaine.